à Washington.
Omicron Nani Talani, 16h en temps universel. Bienvenue à ces nouvelles. Le président sud-africain Jacob Zuma a remboursé à l'État près de 500 000 euros d'argent public dépensés pour des travaux d'aménagement dans sa résidence privée. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la présidence. En mars dernier, la plus haute instance judiciaire du pays avait jugé que le président Zuma avait violé la Constitution en refusant de rembourser une partie des travaux engagés sur deniers publics dans sa résidence privée, dont la construction d'un poulailler et d'une piscine. Ces dépenses sont à l'origine d'une vive controverse dans le pays. La Cour avait estimé que ces aménagements évalués par le ministère des Finances à un peu plus de 7,8 millions de rands ne pouvaient relever de la sécurité du chef de l'État ainsi que le prétendait Jacob Zuma. Selon la présidence, la somme remboursée par M. Zuma a été financée par un prêt immobilier. Le ministère des Finances a confirmé de son côté avoir été payé. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a participé ce lundi à la prière de la fête musulmane de la Tabaski à la grande mosquée à Sainte de Libreville. Le chef de l'État sortant est arrivé ce matin à bord d'une Mercedes bleue pour prier en faveur de la paix dans son pays qui est plongé en pleine crise politique après l'élection présidentielle du 27 août. Il était parmi des milliers d'autres fidèles en ce jour de la fête du mouton, assis sous les grandes voûtes ornées de mosaïques, vêtu d'un grand boubou blanc et installé en tailleur sur un coussin. Le président Omar Ali Bongo Ondimba a écouté les yeux fermés l'imam prêcher. En Libye, les forces des autorités basées dans l'Est ont annoncé lundi avoir pris un troisième terminal pétrolier à une milice loyale au gouvernement d'Union nationale. Des précisions de Tatiana Mosso.
Le pouvoir basé à Tripoli a échoué à défendre les principaux ports permettant au pays d'exporter l'or noir, sa principale richesse économique. Les trois ports du croissant pétrolier ont été conquis par les forces loyales au général Khalifa Haftar, chef proclamé de l'armée, lié au gouvernement non reconnu basé dans l'est du pays. Le GNA a dénoncé ces attaques, estimant qu'elles étaient contraires au processus de réconciliation. Ce revers risque d'affaiblir à l'heure où ces forces luttent pour reprendre la ville de Sirte aux mains du groupe État islamique. Une bataille qui s'éternise depuis 4 mois. Si la Libye dispose des plus importantes réserves pétrolières d'Afrique, estimées à 48 milliards de barils, elle est paradoxalement le membre de l'Organisation des États exportateurs de pétrole, l'OPEP, qui produit le moins. L'incapacité de la Libye à sortir de la crise inquiète fortement les pays européens, confrontés à l'afflux des migrants traversant la Méditerranée depuis son littoral.
Une autre crise, mais cette fois-ci au Tchad, où le gouvernement a pris des mesures drastiques pour renflouer les caisses de l'État. Des mesures qui tendent à réduire le train de vie de l'État et incluent une restructuration de certaines institutions étatiques considérées comme budgétivores. Les réactions avec notre correspondant N'Djamena André Komandigar.
Ces mesures visent à réduire de 50% les indemnités des députés à l'Assemblée nationale. Les décrétés, quant à eux, verront leur indemnité réduite de 80%. Pour Younous Mahadir, président du syndicat national des travailleurs des affaires sociales et sanitaires et vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, ces mesures inventées par le gouvernement vont provoquer dans les jours à venir des tensions sociales qui seront difficiles à maîtriser.
Dans ce pays, l'argent est là, la douane et les fiscalités, et les impôts. Les gens qui gèrent ça là, mettent de l'argent dans leur poche. On va arriver à nous amputer nos primes, nos indemnités et tout. Mais ils ne savent pas que ça, ce sont des acquis. Tant qu'on ne partira pas profondément dans ces recherches de collecte de sous, nous, on ne va pas accepter qu'on touche à nos acquis.
Mahamat Nouri Bedou, inspecteur de trésor, propose une autre alternative au gouvernement pour juguler cette crise.
Nous avions essayé de faire un peu de simulation. On s'est retrouvé avec un huitième de dépenses. Il faudrait mener une vérification normale de tous les biens. Parce qu'ils sont connus, les gens qui ont détourné. Rapatrier tous les fonds stockés à l'étranger, dans les paradis fiscaux. Il faudrait qu'on démantèle le réseau laissé par M. Salahi Devi, le petit frère du président. Parce qu'avant l'avènement du pétrole, la douane faisait 70% de nos recettes. Il n'y a pas de raison que cette fois-ci, elle n'en fasse pas.
Béral Mbaïkoubou, député à l'Assemblée nationale, trouve cette décision injuste et dénonce la manière avec laquelle cette mesure a été prise.
Il est quand même offusquant que pendant les périodes glorieuses, c'est une infime partie de privilégiés indus qui profitent de la grosse manne sans souci du lendemain. Et au moment de faire face donc aux casses, l'on demande que la contribution sacrificielle soit beaucoup plus générale. Je pense que à ce niveau, il y a une certaine injustice. Il y a une procédure pour adopter de telles mesures. On ne peut pas simplement consulter de manière expéditive le président de l'Assemblée nationale ou encore les membres du bureau de l'Assemblée pour prendre une décision aussi importante qui concerne le budget de l'État.
Le secrétaire général du syndicat des anciens du Tchad Seyssion de N'Djamena, Ngartoïde Blaise, ne partage pas l'avis du député.
Moi, j'encourage le gouvernement uniquement à réduire même de 100% les indemnités des députés, mais pas les décrétés qui sont des fonctionnaires de l'État. Parce que ce sont ces députés qui ont accompagné le régime dans les votes des décisions impopulaires.
André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Éthiopie, cette fois-ci, deux dirigeants du Parti démocratique AGOAV, dont son président Andoualem Tilahun, ont été arrêtés et sont actuellement détenus. C'est ce qu'a déclaré ce lundi ce parti d'opposition éthiopien basé dans la région Amara. Andaloum a été inculpé d'incitation publique contre le gouvernement, ce qui est faux. C'est une accusation qui vise à éliminer le parti d'opposition de la région, a dit Tesserabe, un conseiller du parti actuellement aux États-Unis. Pour lui, les personnes arrêtées n'ont jamais incité à manifester contre le gouvernement. Leur seul objectif est d'obtenir un État régional pour les Agwa, au même titre que les Oromo ou les Amara. Le Parti démocratique Agwa représente une petite ethnie d'environ 2 millions de personnes de la région Amara, dans le nord du pays. Les Agwa se sont jusqu'ici tenus à l'écart de la contestation antigouvernementale qui agite les Omoro et les Amara, les deux ethnies les plus importantes d'Éthiopie avec environ 60% de la population. Andoualem et Beyilou Techale ont été arrêtés le 29 août, mais l'information n'a été rendue publique que ce lundi. Le porte-parole du gouvernement régional n'a pas encore réagi à cette nouvelle. Les Nations Unies se sont inquiétées ce lundi des conséquences de l'afflux des combattants sud-soudanais dans l'est de la République démocratique du Congo pourrait avoir sur la stabilité de cette région ébranlée par les conflits armés depuis plus de 20 ans. La mission de l'ONU pour la stabilité du Congo, la MONUSCO, souligne dans un communiqué qu'elle poursuit avec le siège des Nations Unies à New York les discussions avec le gouvernement de la RDC et les organisations sous-régionales afin qu'une issue favorable soit trouvée à cette situation qui pourrait devenir une menace pour la paix dans ce pays. Dans ce texte, la MONUSCO dit avoir porté secours depuis le 17 août à 634 ressortissants sud-soudanais présents dans le parc de la Garamba, une réserve naturelle frontalière du Soudan du Sud. L'agence onusienne souligne aussi que ces personnes ont été extraites du parc dans le cadre d'une opération d'assistance à but humanitaire. Leurs armes ont été récupérées et gardées à la MONUSCO. Cette opération a pour objectif d'apporter de l'assistance aux personnes étant dans un état critique, mais aussi aux populations civiles qui pourraient en être victimes, sachant qu'il resterait à ce jour environ 134 personnes à extraire du parc. Restant en RDC où le G7, un regroupement politique de l'opposition qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle, accuse la majorité présidentielle d'avoir empêché à l'avion de son président Charles Mwando Nsimba d'atterrir à Kaliemi dans le Haut Katanga dimanche dans la journée. L'homme politique a finalement atterri à Bukavu au sud Kivu. Écoutons le témoignage de Pierre Lumbi, le vice-président en exercice du G7.
L'avion qui transportait le président du G7, Mwando Nsimba, accompagné d'une délégation de 7 personnes, en plus de 27 autres passagers de Lubumbashi vers Kaliemi, a été détourné sur ordre du gouverneur vers Bukavu, où il avait atterri à 11h12. Son avion a été empêché d'atterrir à Kaliemi, où il était attendu pour une réunion de travail. C'est la deuxième fois que M. Mwando Nsimba, député national, est empêché d'aller à la rencontre des citoyens congolais de sa circonscription et cela est inacceptable. Nous condamnons.
Ici, aux États-Unis, la démocrate Hillary Clinton se trouvait en difficulté ce lundi après la révélation de sa pneumonie qui donne à son rival une nouvelle occasion de mettre en doute sa capacité à occuper la Maison-Blanche. Voilà pour les infos aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Mais plus d'infos sur notre site internet www.voafrique.com. Je vous retrouve dans moins d'une heure encore pour des nouvelles d'informations. Restez branchés à l'écoute de La Voix de l'Amérique, votre radio qui vous donne toujours des informations de première heure.
Et puis n'oubliez pas notre page Facebook. Sur VOA Afrique.